Bienvenue sur Aligre FM 93.1. Je suis Cad, l'homme du 92. Vous écoutez Championne, l'émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. Cocorico, ce soir, on parlera de Laura Flessel, dit la guêpe. Rien à voir avec l'expression une taille de guêpe. D'ailleurs, j'ai une taille de bourdon, faut le savoir. C'est important, faut que je reprenne le sport, il fait beau. Nous parlerons également d'escrime en général, plus particulièrement féminin. Et enfin, nous parlerons de reconversion dans le sport. Et pour m'accompagner, Elodie. Est-ce que ça va, Elodie?
Ça va super.
Ça va super, c'était bien sur la route?
Ouais, c'était top.
Voilà.
Il a fait beau, c'est agréable.
Il a fait beau. T'as vu, il fait beau, c'est beau.
Il fait beau.
Allez, c'est parti. Bon, à tout de suite. Salutations, chers auditeurs, auditrices. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc parler escrime, sabre, épée, fleuret, touche. Oui, plein de termes très précis, mais on va expliquer, vous inquiétez pas. Mais d'abord, Elodie, comment ça va?
Eh bien, écoute, ça va super. Je suis contente de revenir.
De revenir à l'incontrat. On embrasse Sandrine, qui a été là les deux dernières semaines,
voilà,
d'ailleurs.
Qui m'a remplacée, oui. J'ose dire.
Tout à fait.
Donc, ça me fait plaisir d'être là.
D'ailleurs, elle est prête à tout remplacement, à tout moment, aucun souci. Elle est au taquet. Et déjà, première question, est-ce que tu as déjà fait de l'escrime?
Jamais.
T'as jamais fait d'escrime?
J'ai jamais fait d'escrime. J'ai découvert l'escrime au JO. Ouais. Bon, pas cette année. Enfin, pas en 2024. Mais non, jamais fait d'escrime. Je connaissais pas du tout. J'ai adoré préparer l'émission parce que vraiment, je n'y connais rien.
Très bien. Donc, t'as appris plein de choses.
J'ai appris énormément de choses.
Ah, et ça, c'est le but de l'émission, cher auditeur, auditrice, c'est d'apprendre plein de choses. Donc, toi, ton expérience de l'escrime, c'est Jack Sparrow et les Trois Mousquetaires.
Exactement.
Mais bon.
Ah, c'est ça, exactement.
Moi, ça va, j'ai à peu près les mêmes. Alors, moi, j'en ai fait un peu. Mais il y a... Oula, on est... c'est pour ceux d'entre vous, certains ne sont pas nés peut-être. Milieu des années 90,
okay.
J'en ai fait un petit peu. On va dire, j'ai fait de l'initiation. Faut être vif, faut avoir des super réflexes.
Ouais.
La chance que j'avais, c'était que en fait, j'étais fin comme un bâton à cette époque-là. Donc forcément, c'est facile d'esquiver les coups quand t'es tout fin, surtout que tu te mets généralement de profil ou de trois quarts pour esquiver.
Mm-hmm.
Mais je tiens à dire, pour avoir fait, qu'à l'époque que j'en ai fait, et c'était une initiation, j'ai pris les coups de fleuret dans le plastron. Waouh, ça fait mal, les coups dans les
ah
côtes,
ouais.
Sur la vie de WAM.
Là, pour moi, il y avait des...
enfin,
une
mal.
Espèce d'armure, une coque, je
oui,
sais
t'as
pas.
Oui, t'as le plastron, effectivement,
ouais.
Hein, mais en fait, quand il te met le coup, bah, tu le sens.
Ah ouais, quand même.
Ah oui, quand même. Et encore, au bout, il y a l'espèce de petit,
petit
truc.
Le petit capteur.
Ouais, et enfin, le petit
mousse,
bouchon, tu vois,
ouais,
voilà.
Enfin,
pour, alors,
je sais
les
pas
capteurs,
si c'est en mousse ou quoi, mais...
Voilà, après, ça a changé. Là, moi, j'en parle, c'est milieu des années 90, il n'y a pas les capteurs encore et tout ça. Cette technologie, elle existe, mais elle est pour les pros, tu vois. Donc moi, quand j'en ai fait, je dois avoir 13-15 ans, tu vois, dans ces eaux-là. Et vraiment, le coup que j'ai pris dans la côte, je m'en rappelle encore. Et étonnamment, j'aimais beaucoup parce que ça jouait sur FX et j'aimais vraiment bien. D'ailleurs, il faut savoir que parfois, quand je fais des rêves, parce que je fais des rêves en 3D façon Michael Bay, je suis souvent escrimeur. On continue. Donc, il existe le sabre, l'épée, le fleuret. Et attention, la Fédération Française d'Escrime, d'ailleurs, vous pouvez aller voir leur site, c'est génial. Vous allez avoir un truc qui est super cool, c'est qu'ils ont rajouté, je te jure, je suis parti vérifier, c'est vrai et c'est génial. L'escrime artistique.
Ok.
Je trouve ça trop cool. Et surtout, et je vous jure que c'est vrai, si vous êtes fan de Star Wars, le sabre laser.
Ça, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que c'était à la Fédération.
Exceptionnel. Ils le font. Je trouve ça
incroyable.
Génial.
Mais oui, j'en avais entendu parler. J'ai vu des vidéos et tout. C'est incroyable.
C'est exceptionnel. Vraiment, il y a le sabre laser. Vous pouvez vous prendre pour Obi-Wan Kenobi, Anakin. Il n'y a pas de souci. Il y a des règles et tout. Que ça compte par points. Ils font
ouais,
des tournois.
Vu, c'était hyper encadré.
C'est
enfin,
génial.
C'est vraiment c'est très stylé.
C'est trop cool. Et donc, la Fédération Française d'Escrime est tombée dedans. C'est cool. Alors, évidemment, pour les Jeux Olympiques, on a que l'épée, le fleuret. Et le sabre, qui sont les trucs les plus classiques que vous allez voir aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, c'est vraiment les grosses compétitions pro-officielles. Il n'y a pas encore la compétition d'escrime artistique ou de sabre laser, mais je suis impatient. Impatient qu'elle arrive.
Écoute, on va signer des pétitions pour que le sabre laser arrive aux JO. Hein.
C'est une dinguerie. Alors, du coup, on va commencer évidemment toujours en question. Alors, d'après vous, ma chère Elodie, combien y a-t-il de clubs d'escrime en France?
Ah, tu m'angoisses à chaque fois avec tes
questions.
Ouais,
je sais, c'est... vous pouvez jouer chez vous, vous connaissez
des
la règle.
En France?
Yes, le club d'escrime en France.
Je dirais, je sais pas.
Alors, amateur et pro.
Ouais.
Et les deux.
Je vais me gourer comme d'hab. Mm-hmm. Je dirais 3000.
Non, pas quand même pas.
Je sais pas.
<C'est> pas.
Non, je dirais, ouais, dans les 1500, en vrai.
T'es pas loin, il y a 800 clubs.
Ah ouais, ouais. Ah, c'est
dont,
tout
ouais,
moi, et je pensais qu'il y en avait plus.
Non, 800 clubs. Et d'après toi, combien toi, à combien dans la région parisienne?
Je pense qu'il y en a pas mal parce que pour faire mes recherches, j'ai tapé club d'escrime à côté de chez moi. Il y en avait 3 déjà qui apparaissaient sur le...
Il y en a pas mal en région parisienne.
Sur la map. Donc c'est pour ça que j'ai donné un chiffre très haut. Je me suis dit, il y en a plein. Et en région parisienne, c'est 800 sur la France. Je dirais qu'il y en a une centaine en région parisienne.
121 en région parisienne. Bravo. Le point est pour toi. J'espère que vous jouez chez vous. 121. Et il faut savoir que nombre de licenciés, d'après toi. Alors, ce n'est pas dans le top 10 des sports les plus pratiqués.
J'en rêve de cette question. Tu m'as déclenché une phobie.
Yes. Alors,
les licenciés, j'en ai aucune idée, je dirais.
On n'est pas dans le top 10, donc on n'est pas dans les 100 000 licenciés.
Ouais, non, je dirais 3 000.
Quoi?
Je sais pas, mais à chaque fois tu me regardes comme ça.
3 000, j'étais ouf ou quoi?
J'en sais rien.
Il y a 800 clubs, réfléchis.
Bah et quoi, ils sont beaucoup dans les clubs, non?
Bah ouais, mais 3 000 par 800, ça voudrait dire il y a quoi? Il y a 3 mecs par club. Respectons l'escrime, mesdames et messieurs, cocorico.
Je sais pas, moi, 10 000.
60 000.
Ah oui, quand même.
Il y a 60 000 licenciés. Ça n'en fait pas un des top 10 des plus pratiqués de France, mais c'est pas mal. Alors, effectivement, pour une licence annuelle, selon la Fédération française d'escrime, les tarifs pour la saison 2024-2025, bien sûr, il y en a plein. Alors, je m'y attendais pas. Il y a des licences de vétérans, il y a des licences d'enseignement, il y a des licences handisport, la licence sabre laser. Elle existe.
J'adore.
Elle est à 15,5 euros. 15,50 € et vous pouvez vous prendre pour un Jedi ou un Sith, et ça.
C'est hyper stylé.
C'est une tuerie. La licence artistique, pareil, aux alentours de 15 et quelques euros. Tu peux être bénévole pour aider, c'est dans les 3 euros. Donc en gros, arbitre, c'est 34 par exemple. Donc en gros, pour une licence d'escrime, vous en tirez pour une 40aine d'euros max. Voilà. Okay. À part si vous cumulez, effectivement, vous voulez prendre sabre laser, vous pouvez prendre fleuret, etc. Vous pouvez faire des multiclassés. Ça, c'est cool. Pour l'équipement, effectivement, on a le fameux masque avec son grillage. On a la veste. On a donc le renfort. Je le disais tout à l'heure.
De poitrail.
Oui, merci. Le poitrail. Les gants, évidemment. Et l'arme, donc fleuret, sabre autre. Et là, par contre, on commence à arriver à 200-500 balles à peu près.
L'équipement complet?
Ouais.
Ok.
C'est pas non plus.
Je m'attendais à plus.
Ouais, je m'attendais genre le taekwondo. Je sais que le taekwondo, c'est très cher pour tout acheter. Mais là, on est plutôt pas mal, 200-500 balles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, les épreuves officielles, on aura donc le fleuret, l'épée et le sabre en individuel et par équipe. Et pour les filles, c'est la même chose. Ce qui donne donc 12 épreuves lors des JO qu'on a vues en 2024 ou lors de championnats du monde. Évidemment, il y a des championnats du monde, les JO, Coupe du monde, championnat d'Europe, évidemment. Et il y a donc une différence entre... l'épée, le fleuret et le sabre. Les connais-tu? J'ai fait mes devoirs.
J'ai fait des petites recherches.
Vas-y, on voit.
Alors là, on va dire les différences principales, ça va être la zone de touche.
Très bien.
T'as vu, j'ai des termes techniques.
Yes.
La zone de touche qui va être différente. Donc pour l'épée, par exemple, c'est tout le corps.
Ouais, exact.
Pour le sabre, c'est, si je dis pas de bêtises, le tronc, la tête et les bras.
C'est ça, le tronc vers le haut, exactement.
Voilà. Oui. Et pour le fleuret, c'est uniquement le tronc.
Ouais, uniquement le tronc, le torse, le dos, le ventre.
Voilà, exactement.
Pas bras, pas tête, pas pied. Ça compte pas.
Pas de chocolat.
Pas de chocolat. Ça compte pas. Ça compte pas. C'est exactement ça. Et c'est en fait la différence est vraiment sur les zones de touche.
Les zones de touche et aussi sur... c'est entre c'est le sabre qui est différent, si je dis pas de bêtises, je relis mes notes. Oui, c'est le sabre. Le sabre, on peut toucher pas seulement avec la pointe.
Exactement, pointe plus tranchant.
Exactement.
Bravo, rien à dire. Pointe uniquement pour l'épée et le fleuret. Et on peut dire que l'épée, on est plutôt sur défensif, stratégique au niveau du style. Pour le fleuret, on est plutôt technique, analytique, on fait attention et tout. Et pour le sabre, on est littéralement offensif. Explosif, vraiment on y va. Voilà, quand vous les voyez se jeter, c'est du sabre. Et effectivement, c'est à l'épée, donc plutôt défensif stratégique, que Laura Flessel a construit sa légende, car c'est une arme qui permet aux plus patients et rusés de briller. Son surnom, la guêpe, vient de sa capacité à piquer au bon moment, précisément intelligent, et à quel endroit?
Les pieds.
Exactement, elle visait les pieds.
Elle visait souvent les pieds, ouais.
Et c'est là où vous voyez, vous devez avoir cette image, l'escrimeur, imaginez-le, tout en blanc, et qui se tend très 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 long. Il essaie vraiment de se tendre le plus loin possible avec son arme pour essayer de toucher. Et elle faisait ça pour toucher le pied. Et, pac, et ça touche. Et il faut qu'il y ait des arbitres. Des arbitres. Ouais. Et ils sont vraiment très techniques.
Ouais, waouh. C'est en lisant toutes les règles, toutes les subtilités, j'ai compris en préparant l'émission pourquoi il y avait souvent deux arbitres pendant les affrontements. C'est hyper technique. Mm. C'est vraiment, ça joue déjà au millimètre, à la seconde près. Il y a des priorités d'attaque. C'est pas forcément au premier touché le point attribué. Enfin, c'est vraiment hyper technique.
Ouais, il y a la riposte, l'esquive. Il y a aussi, on voit, ils ont un temps, ils ont un timer pour se piquer. Donc des fois, ils sont pressés par le temps. Mm-hmm. Ils ont effectivement les capteurs qui permettent. C'est pour ça qu'ils ont des espèces de câbles, en fait.
Ouais, branchés.
Donc, dès qu'il y a une touche PAC, ça s'allume. Et effectivement, les arbitres vérifient aussi à la vidéo la touche, comment elle a été faite.
Si
mais comme tu as dit.
Si la touche est conforme.
Voilà, si la touche est conforme par rapport au règlement de si on est dans quelle discipline, épée, sabre, fleuret, est-ce qu'il a le droit d'aller toucher là, est-ce qu'il a le droit de se lancer, est-ce que c'est une riposte, est-ce que machin. Mm-hmm. Mais en fait, il y a tout un règlement.
Oui.
On est loin du en garde.
Ah bah c'est pas d'Artagnan, hein. Bah. C'est pas vraiment. Moi vu que j'y connaissais vraiment rien, moi j'étais persuadée premier touché perdu.
Bah moi aussi, tu vois.
Et en avant Guingamp comme on dit. On y va, on attaque. Et en fait pas du tout, c'est hyper technique. C'est vraiment j'étais impressionnée par toutes les règles, toutes les subtilités. Vraiment la stratégie qu'il faut aborder pour les affrontements. Enfin.
Ouais, c'est là où tu vois que c'est stratégique. Donc mentalement, faut aussi être préparé. Ouais. Et c'est un sport qui va allier vraiment tes réflexes, ta condition physique, mais aussi vraiment une stratégie. C'est pas juste effectivement j'esquive et je touche le premier. Ouais. C'est beaucoup plus technique que ça. Du coup, au JO de Paris, mesdames et messieurs, on a eu un nombre de médailles intéressantes, mais surtout d'abord, vous ne le saviez pas, mais j'ai quand même te poser la question. Au nombre de médailles olympiques, il y en a 10. Hein. Ça, je suis gentil sur ça là. Au nombre de médailles olympiques, tous jeux confondus de tous les temps, d'accord ? Okay. Quel est le sport où les Français ont eu le plus de médailles ?
Bah, j'ai envie de dire l'escrime.
Oh là, applaudissements !
Merci.
Bravo, bravo, bravo. Exactement. 130 médailles sur tous les JO confondus. C'est le sport où les Français ont le plus brillé à tous les Jeux olympiques confondus. C'est une stat de zinzin, je trouve. Donc on a vraiment une grande histoire avec l'escrime. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, on est passé sur d'autres sports, mais vraiment, ça, c'est fou. On a eu 7 médailles au JO de Paris. Eh bien, c'est plus que tous les autres pays qui ont participé.
Wow.
On n'a pas eu le plus d'or, mais on a eu le plus de médailles dans cette discipline. On a eu une or, 4 argent, 2 bronzes. Individuelle fille, alors avec Manon Apiti, au sabre, face à une autre Française.
Oui.
Eh ouais, Sarah Balzer, c'était une belle finale qui a pris l'argent.
Ouais, je me rappelle de la finale, je l'ai regardée.
C'était génial.
Déjà, le cadre était incroyable, mais
le grand palais.
La finale 100% française, c'était un spectacle magnifique à regarder.
Franchement, les JO, pour les revoir en replay, ça restera dans les annales. Le grand palais utilisé, c'était fou.
C'est incroyable. Franchement, quand j'ai regardé les premières épreuves au Grand Palais, j'étais comme une gosse devant ma télé. J'étais en mode, waouh, mais c'est trop beau.
C'était génial.
J'ai redécouvert l'endroit.
Oui, d'ailleurs, je pense que tout le monde a un peu redécouvert Paris grâce aux JO. Et c'était pas plus mal, parce qu'on a quand même une ville magnifique. Voilà. N'hésitez pas à venir nous dire coucou si vous êtes en province. Les garçons, eux, ils ont pris le bronze en sabre par équipe, et le bronze en fleuret par équipe, et argent en épée individuelle. Donc c'est plutôt pas mal. Mais les filles, elles ont vraiment cartonné avec or-argent et argent à l'épée pour Oriane Malo-Breton et par équipe à l'épée argent également, dont elle faisait partie de cette équipe. Donc 7 médailles pour la France, c'est fort. 130 au total, tout sport confondu, rien à dire.
Sachant qu'en plus, c'est pas un sport qui... c'est un sport qui est quand même assez récent dans les JO.
Oui.
C'est pas un sport historique qui est là depuis le commencement, c'est arrivé en 96, si je dis pas de bêtises. Donc 130 médailles, enfin plus de 130 médailles en... Bon, je vais pas faire le calcul, mais en très peu de temps.
En une trentaine d'années.
Voilà, c'est ça. Donc, un peu moins de 30 ans, c'est waouh.
Non, on est vraiment des cracks là-dessus. Et d'ailleurs, d'où vient l'escrime ? Eh ben du duel.
Bah oui.
Ça, c'est exceptionnel.
C'est magnifique.
Et j'ignorais que le duel judiciaire du Moyen-Âge, que vous pouvez voir dans Game of Thrones, si vous avez déjà regardé un petit peu, ce fameux duel judiciaire, c'est-à-dire que vous avez un petit souci avec quelqu'un d'autre, et pour résoudre ce litige, vous demandez un duel. Voilà. Alors, le duel judiciaire du Moyen-Âge est très courant à la cour des rois chez les nobles, notamment sous Charlemagne. Oui, ça date de lointain, on a vraiment une tradition avec ça. Quoi. Mm-hmm. Même si ce dernier tentera de le limiter, ce ne sera pas le seul. Ensuite, au XVIe-XVIIe siècle, le duel d'honneur. Ah oui, alors vous avez... Je vous jette mon gant.
Tiens-entre.
Et à la fin, je touche.
Et là, premier touché, perdu.
Ah bah, perdu. Le duel devient un rite aristocratique pour laver un affront ou une enfance à l'honneur. Explosion du phénomène au XIVe siècle, Henri IV, excédé, interdit les duels en 1594, mais sans réel succès. Ah oui, vous savez, on est en France, hein, quand on nous interdit quelque chose, voilà. Louis XIII puis Louis XIV tentent de durcir les sanctions. Ce dernier en fait un crime passible de mort. Malgré tout, les duels continuent dans l'ombre. Et on pense donc aux trois mousquetaires, quand ils se rencontrent, ils vont se battre dans l'ombre parce que c'est interdit. Évidemment, le duel revient à la mode au XIXe siècle, sur un duel codifié, bien sûr, souvent au pistolet ou à l'épée, le choix des armes, le fameux, et les aristocrates et les artistes, ça. Citons le fameux duel, je ne savais pas, entre Émile Zola, pas n'importe qui, et Henri Rochefort en 1898 après l'affaire Dreyfus.
Ok, je ne savais pas.
Dinguerie. Dinguerie. Et bien sûr, on arrivera au dernier duel qui a eu lieu. Je te laisse me dire l'année.
Ça, tu me l'as dit tout à l'heure.
Ah, tu veux, je te laisse. D'après toi, le dernier duel en France a lieu à quelle heure?
C'était il y a moins de 60 ans.
Exactement.
C'était il y a moins de 60 ans. J'ai plus la date exacte.
T'es dans les années 60, c'est bien.
Ouais, c'est dans les années 60. 64
1967.
67.
1967, sous l'égide du général de Gaulle, Gaston Defferre, en l'occurrence maire de Marseille, socialiste, député des Bouches-de-Rhône, prend un duel avec René Ribière, député du Val-d'Oise, et gaulliste, suite à une embrouille à l'Assemblée. En gros, le député du Val-d'Oise faisait un discours. Il a été hué, en public, en 1967.
Ça arrive.
Il s'en prend à celui qui hue le plus fort, le maire de Marseille. Et ils se disent, tu sais quoi, on va se régler tous les deux. On part en duel.
C'est cette histoire dingue. Est incroyable.
Ils vont donc aller dans des jardins à Neuilly, discrètement, pour pouvoir se taper en duel. Le choix des armes sera donc l'épée. Là où le maire de Marseille est un cadre et René Ribière, pas du tout. Mais René Ribière ne va pas reculer. Ils vont se taper à l'épée les deux. Le général de Gaulle voudra l'interdire. On l'ignorera. Le général en plus.
De Gaulle.
C'est dingue. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le député du Val-d'Oise va perdre, car il aurait été touché deux fois par le maire de Marseille, qui dira « J'ai visé les bourses parce que je savais que le lendemain, il se mariait. »
C'est très marseillais.
C'est totalement marseillais. C'est une victoire de l'OM. Cette histoire est complètement dingue. Et aujourd'hui, le duel est illégal en France et assimilé à une tentative d'homicide volontaire, ce qui aurait dû être le cas depuis le début.
Depuis très longtemps. Hein.
C'est complètement dingo. Et effectivement, c'est l'article 121-4 du Code pénal. L'escrime sportive a pris le relais de manière réglementée sur les duels dans lesquels on était vraiment méga chaud. Ouais. D'où cette fameuse image qu'on a du gentilhomme français qui te gifle avec son gant,
avec son etc. Gant blanc immaculé.
Grand escrimeur et tout. Et je vous raconterai peut-être tout à l'heure, ou une autre fois, je la garde pour le prochain escrime, le duel le plus long entre deux gars qui se sont fait des duels pendant quasiment 20 ans. Et qui sont deux capitaines, deux militaires exactement. C'est assez fou. C'est François Fournier Sarlovez face à Pierre Dupont de l'Étang. On en parlera une autre fois puisque là, on va se mettre un peu de musique. Mais du coup, on a bien fait le tour de l'escrime, ça va ?
Ouais, ça va, je pense qu'on a tout dit.
Eh bien, on part sur un morceau. C'est
vous
parti.
Écoutez Allegre FM 93.1.
Okay, shut up. About my own things, I pay my own bills. These diamond rings, my automobiles. Everything I got, I bought it. Boys can't buy my love, yeah. I do what I want,
yes.
Say what you say. I work real hard every day. I'm a motherfucking woman, baby. All right, I don't need a man. shit, baby. Don't buy me a drink, I make my money. Don't touch my weed, don't call me honey. I write my shit. Don't buy me a drink, I make my money. Don't touch my weed, don't call me honey. Don't buy me a drink, I make my money. Don't touch my weed, don't call me honey, baby. Cause I run my shit, baby.
Bonjour à nouveau, auditeur, auditrice, ce que vous avez entendu n'est pas le rire d'une poule, mais bien le rire de Kesha pour le morceau Woman, qui est un morceau très sympa que j'ai choisi, très punchy. N'hésitez pas à aller regarder les paroles, c'est très engagé. Elle dit tout simplement qu'elle peut faire des choses toute seule. Je suis toujours Cad, l'homme du 92, nous sommes toujours sur Aligre FM. Vous êtes bien dans l'émission championne qui traite du sport féminin. Nous sommes avec Elodie, dit la rideuse du 7-8.
C'est pourquoi 7-8, j'habite dans le 92.
Je sais pas, j'ai envie. J'aime bien lancer des rumeurs. Voilà, ça va toujours du coup.
Ça va super.
Évidemment, on remercie toujours, on est accompagné à la régie par Armand. Merci, pouce levé, pouce, pouce, pouce. On va parler plus en profondeur de notre légende du sport, Laura Flessel, dit la guêpe. Alors... Laura Flessel, déjà, toi, t'en as entendu parler comment? Quand on dit Laura Flessel, est-ce que t'as une image, un truc?
Je connaissais de nom, vraiment, le nom me disait quelque chose, mais je connaissais pas du tout la personne. C'est vraiment en préparant l'émission que j'ai découvert l'athlète, parce que vraiment, à part de nom lointain, j'aurais même pas pu dire quel était son sport, vraiment.
Très bien.
Je connaissais très peu.
Alors je te rassure, c'est à ça que sert l'émission.
Bien sûr.
C'est faire découvrir des légendes ou redécouvrir, c'est important. Effectivement, ça dépend l'âge que vous avez. Alors Laura Flessel, une de ses premières médailles, si je ne dis pas de bêtises, on est sur Atlanta 96. Et du coup, sur le fait que ce soit Atlanta 96, moi j'ai une image d'elle très simple, c'est quand elle gagne, en fait, vous pouvez regarder sur internet, elle enlève son masque. Et elle jette un regard de daronne. Mais le regard de « Oula, va dans ta chambre !» qui est exceptionnel sur sa victoire. Et du coup, elle est très connue sur ce regard de fou. Et en fait, ça a sa grande joie quand elle gagne l'or. Donc, elle est née le 6 novembre 1971. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, ça lui fait à peu près 54... Pas encore 54 ans, elle a 53 ans. Alors, à 54 à la fin de l'année. Elle est née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Ce qui lui fait un point commun avec Marie-Josée Perret, qu'on est dans les mêmes années.
Tout à fait.
Vous avez voulu à peu près en même temps. Donc, coucou à la Guadeloupe. Discipline, évidemment, l'épée, l'escrime, surnom la guêpe, pour sa rapidité, sa précision, son style redoutable. Elle débute l'escrime à 6 ans en Guadeloupe. Et ça, chapeau, parce que je ne pense pas qu'ils avaient les infrastructures extraordinaires en 1977 là-bas. Mais du coup, vraiment chapeau. Après, elle sera formée à Bordeaux, au Krebs, où elle s'impose très vite comme une étoile montante dans un sport encore peu médiatisé au féminin. Et c'est vrai, on parlait que des garçons à l'époque.
C'est vrai.
Parce qu'on a une grande tradition de duel, vous l'avez vu avec le maire de Marseille, ou Émile Zola. Mais effectivement, les filles, c'était moins connu. Et là, on va parler palmarès. Alors là, je vais juste dire une phrase et je te laisse enchaîner. Laura Flessel est la plus titrée des escrimeuses françaises, tous sexes confondus.
Exactement. Elle a un palmarès... incroyable, c'est simple, elle a tout gagné.
Ouais.
Elle a tout gagné, que ce soit au JO, championnat du monde, championnat d'Europe, championnat de France. C'est simple, il n'y a pas une médaille qui lui a échappé, que ce soit en individuel ou en équipe. Elle a quand même une longue carrière, elle a 17 ou 18 ans de carrière.
C'est
elle
ça.
A commencé en 95, elle finit en 2012.
Ouais.
Elle remporte historiquement les deux premières médailles des JO en 96.
Exactement.
C'est-à-dire que le sport est lancé, elle a tout raflé.
Elle prend en épée individuelle, l'épée par équipe, direct.
Ouais.
Ça, c'est fort. Effectivement, en 2012, elle sera porte-drapeau aux Jeux de Londres, et c'est une très belle consécration. Ouais. Généralement, les porte-drapeaux, on a eu Teddy Riner cette année. Et c'était vraiment très, très cool. Effectivement, elle va prendre ses deux médailles d'or aux Jeux Olympiques, mais pas que, parce qu'elle va gagner d'autres choses aux Jeux Olympiques un peu plus tard, parce qu'elle va gagner sa médaille d'argent en 2004 en individuel, la médaille de bronze en individuel aussi...
C'est en 2000, l'argent, en 2004 le bronze en équipe.
Voilà, merci. 2004, elle fait le doublé. Ouais, parce qu'il y avait 2000, mais en fait, je ne l'avais pas mis au bon endroit.
C'est le T9.
Ouais, j'ai quelque chose à dire au T9, moi. Si vous préférez le correcteur. Au championnat du monde, c'est assez fou parce que là, pareil, à partir de 98, elle va gagner quasiment 6 médailles d'or. 98, 99, 2005, 2007, 2008. Des médailles d'argent en pagaille en 95, comme tu dis. Déjà tout de suite, une médaille d'argent au championnat du monde, c'est assez fou. Trois médailles d'argent, mais 4 médailles de bronze. Championnat d'Europe, c'est pareil. On a une médaille d'or individuelle en 2007, des médailles de bronze en pagaille. Et surtout, je te laisse parler du championnat de France.
Le championnat de France. Quand j'ai vu les stats, j'ai relu plusieurs fois pour être sûre. J'ai recompté. Donc, elle a été en activité de 95 à 2012. Donc, ça fait environ 17-18 ans.
Ouais, c'est ça. C'est dans le circuit pro.
Exactement. Elle a eu 18 médailles.
Ouais, mais...
Voilà, comme ça, elle n'a jamais perdu, en sachant qu'elle en a eu 15 or et 3 argent, 0 bronze. Donc elle a vraiment...
Finale.
Et elle a remporté soit première, soit deuxième place pendant toute sa carrière en France.
C'est une dingue.
C'est vraiment incroyable.
C'est un palmarès de champion. Mais de toute façon, elle a plus de 20 médailles internationales en plus, tu vois.
Elle a
une série de médailles, c'est dingue. Et d'ailleurs, encore une fois, je suis étonné qu'on n'est pas plus médiatisé cette sportive.
C'est vrai, parce que vraiment, quand j'ai vu le palmarès, je me suis dit, pourquoi je... Parce que Marie-Jo Pérec, par exemple, qui était dans les mêmes années, moi qui ne suis pas du tout, qui ne connais pas ces sports,
l'athlétisme.
Voilà, exactement, qui n'en a jamais fait, Pérec, je connaissais le nom, je pouvais dire ce qu'elle avait fait, comme sport, en tout cas. Et Flessel, je pouvais pas. Ouais. Alors que vraiment, le palmarès, c'est incroyable. C'est quand même la première athlète féminine à avoir remporté JO et mondiaux la même année.
Oui.
C'est quand même les deux plus grosses compétitions qu'il peut y avoir. Et ça a été très peu médiatisé. Ah ouais, je sais pas pourquoi.
Et moi, je me dis, comme d'habitude, je le dis souvent dans ces micros, mais je suis obligé de le redire, si ça avait été un gars...
Il y aurait des statues.
Ah, oui. Ça, vu en plus la tradition du duel que nous avons.
Oui, ouais. Non, en plus on est quand même un des pays historiques de l'escrime, donc je comprends pas pourquoi c'est pas plus mis en valeur. C'est aussi peu connu comme sport, aussi peu mis en avant.
Je pense que si on a, et je l'espère, une escrimeuse qui fait ce type de stats dans les années 2025, on en parlera vraiment.
Oui.
Mais là on est dans les années 90.
Ouais.
Et vraiment on est encore dans ce côté... comme on en a déjà parlé plein de fois, hein, c'est une fille en fait. Ça aurait été un gars, c'est pas le même traitement et on l'aurait mis au Zidanesque.
Au panthéon des athlètes.
Voilà, alors que voilà, c'est une fille. Mais en soi, c'est pas grave. Ça, on peut toujours parler de son record exceptionnel, on peut toujours faire l'effort de mémoire et parler que c'est vraiment une athlète de zinzin, hein, pour le coup. Alors elle a eu un truc assez drôle parce que j'ai regardé, elle a eu une affaire de dopage.
Tout à fait.
En 2002, elle a été testée positif à un produit interdit. Laura Flessel reconnaît une erreur de prescription médicale. Elle est suspendue 3 mois. Et c'était en 2002. Et on vient de vous dire qu'elle a gagné en 2007, en 2004.
Oui.
Donc, ça ne l'a pas arrêté.
Oui, non.
Ça, c'est assez fou. Voilà. Ensuite, effectivement, en 2012, elle va arrêter sa carrière et elle participe à Danse avec les Stars.
Oui. Elle a fait... En fait, j'ai regardé, elle a fait pas mal d'émissions. Hein.
Ouais. Ouais. Ah ouais, pour son après-carrière, qui est d'ailleurs le troisième sujet de l'émission d'aujourd'hui, la reconversion. En 2015, elle est déjà dans une émission spéciale, c'est Nos chers voisins, où elle incarne une certaine Alexandra, qui est une démarcheuse humanitaire. Donc déjà, elle a ce petit côté comédie, mais elle a vraiment une très belle image auprès du public, il faut le dire. Ouais. Durant les Jeux Olympiques de 2016, elle commande sur Canal+, la cérémonie d'ouverture avec Stéphane Guy. Elle fait aussi les épreuves d'escrime à ce moment-là. Mmh. En 2023, elle participe à la saison 5 de Mask Singer.
Oui.
Eh oui, cette fameuse émission où il y a un jury, il y a des gens qui chantent, sont déguisés en animaux ou en truc. Il faut savoir qui chante. Et en 2023, elle participe à la saison 2 des Traîtres sur M6.
Ouais.
Comme quoi, en termes de reconversion, c'est assez fou. Mais surtout, ce qui nous intéresse, là, pour les dernières minutes, parce qu'on va parler, parce que c'est quand même, on parle de la plus grande escrimeuse française de tous les temps, mec, garçon...
Tout sexe confondu.
Tout. Cheval, fille, hippopotame.
Maire de Marseille.
Tout ce qui est français, elle vous a battu à l'escrime, il n'y a rien à dire, voilà, c'est la bosse. Et en mai 2017, elle devient ministre des Sports.
Mm.
Alors, sous Emmanuel Macron, chacun jugera, mais elle devient ministre des Sports. Et oui. Ça, c'est quand même assez ouf. Elle œuvre pour l'accès au sport pour tous, la lutte contre les discriminations et met en avant le sport comme vecteur d'insertion sociale. C'est totalement vrai parce qu'il y a une loi qui a été adoptée et modifiée pour le coup, mais en 2021, dont elle est à l'initiative et dont le volet était d'intégrer le sport dans les missions d'établissements sociaux et médico-sociaux. Et bien entendu, rien sur les tenues telles que des bandanas. Voilà, bah, bon entendeur... Je la place. Mais en tout cas, elle va vraiment être dans l'idée que le sport est une thérapie, ce qui est vrai. Faire du sport, c'est vraiment sain. C'est pas juste pour la santé, c'est pour la tête, c'est bien. Donc elle va œuvrer pour ça. Après, elle démissionnera en septembre 2018 pour raisons personnelles. Et je cite « La France rayonne grâce au sport. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit également fraternelle. Le sport doit être un vecteur de lutte contre les discriminations et de rassemblement. Toujours garder l'humain au cœur du projet sportif. Veiller à sa santé, son bien-être, son épanouissement. Et pour retrouver des engagements passés, justement, tourner vers l'humain, la solidarité et la coopération internationale que je prends aujourd'hui à décision de poursuivre mon action par d'autres voies. » Grande dame.
Grande dame. On se dit, waouh. Un flash tout pour ses convictions.
C'est exceptionnel. Franchement, c'est très très fort. Et elle va créer une fondation qui s'appelle Ticolibri pour promouvoir le sport et la santé et l'éducation auprès des jeunes. Elle devient également ambassadrice pour diverses campagnes comme la lutte contre le VIH, le soutien aux femmes dans le sport, l'éducation par le sport dans les dom-toms. Donc elle a vraiment accroché de cette idée que le sport peut apporter. Et enfin, évidemment, elle portera la flamme olympique.
Oui.
Alors ça, c'est beau. Ça, c'est grand. J'aime beaucoup. Donc, icône de l'escrime mondiale, pionnière pour les femmes et les outre-mer, sportive qui a su rebondir face à l'adversité. Et je la cite, et après je te laisse la parole, elle dit « Le sport m'a appris à tomber, mais surtout toujours à me relever.
Mmh. »
Avant Rocky, bravo.
Oui.
Ah, c'est bon quand même.
Ouais.
Alors, vas-y, à toi. Je te laisse la parole là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses de cette grande dame quand même ?
Comme je l'ai déjà dit, moi c'est vraiment une athlète et une femme que j'ai découvert pour l'émission, qui m'a beaucoup impressionnée par son palmarès, par ses convictions. Elle a énormément œuvré après sa carrière dans des associations. Elle a été vraiment membre d'énormément d'associations. Elle a créé des associations. Elle a vraiment beaucoup œuvré pour le sport, pour que le sport soit accessible à tous. Et ça, je trouve ça vraiment formidable.
Ouais, c'est dingue parce qu'en fait, on est vraiment sur... et on va en parler dans la troisième partie, je tease un peu la reconversion. Quand tu es sportif de haut niveau, grande star ou pas d'ailleurs, quelles sont tes portes ouvertes ? Et là, on a quand même quelqu'un qui va passer de consultante à faire un peu de comédie, à, comme tu as dit, rentrer dans l'associatif, devenir ministre, donc carrière politique, c'est fou, et qui va s'engager, et qui va devenir même consultant de TV, pour simplement commenter le sport qu'elle connaît. Donc, il y a vraiment, elle incarne, pour le coup, c'est pour ça que ça m'intéressait de faire cette troisième partie là-dessus, parce qu'elle incarne déjà plusieurs pistes.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas cantonnée à « je ne pourrais faire qu'une chose ».
Elle a fait beaucoup de choses, même après sa carrière sportive, elle a fait énormément de choses.
Ouais, c'est fou, elle a même participé à des émissions télé,
ouais.
Je trouve ça
et
fou.
Plus d'une en plus.
Mais grave, en fait,
on a
trois,
fait, elle a fait la chasse au trésor.
C'était
la première. Mass Singer, Les Traîtres.
Danser avec les stars juste après fin de carrière.
Ouais, petite apparition dans
Mes chers voisins.
Mes chers voisins, j'allais dire l'émission concurrente.
Tu peux.
Oui, c'est vrai.
Scène de ménage.
Non, elle a fait. Mais enfin voilà, elle a fait plein de choses. C'est cool. Franchement, c'est cool.
Moi, je la trouve méga inspirante parce que là, du coup, on a exactement comme on a dit, c'est-à-dire qu'on a une sportive d'extrêmement haut niveau qui a vraiment marqué l'histoire du sport. Qui n'est pas forcément la plus connue quand on parle des grandes dames du sport. Alors, c'est générationnel, ça c'est clair, mais il y en a qui réussissent à transpercer les générations. Par exemple, si on parle de cyclisme, il y aura toujours quelqu'un pour parler de Pouilly d'Or, tu vois.
Oui, ouais, oui.
Et pourtant, Pouilly d'Or, ça date de... Voilà. Ouais. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a traversé le temps avec son palmarès, mais surtout qui a prouvé qu'elle n'est pas seulement une sportive, un peu comme Serena Williams, il y a le côté iconique.
Mm-hmm.
Et en fait, elle arrive à exister autrement. Alors qu'elle n'est pas forcément la plus connue pour son palmarès, alors que son palmarès, il est sans équivoque.
Ouais.
Et je trouve ça vraiment extrêmement inspirant, en fait.
Dans le sport, elle est très connue, reconnue. Elle a même, j'ai vu, elle a des dizaines de salles de sport, de complexes sportifs à son nom, ce qui est déjà incroyable.
C'est exceptionnel.
Vraiment, quand tu vois ton nom placardé sur un bâtiment, franchement, ça fait classe. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, elle n'a pas... elle n'a pas eu la lumière qu'elle,
qu'elle méritait,
Méritait, ouais, exactement. Ouais.
Je suis complètement d'accord. Je pense qu'elle méritait plus de lumière. Mais néanmoins, on va en parler dans la deuxième partie. La reconversion des sportifs, c'est important. Il y a plusieurs pistes et ce n'est pas forcément toujours connu.
C'est vrai.
Et c'est le moment de la pause musicale.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et bonjour à nouveau, auditrices, auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1 à Allegre FM. Je suis Cad, l'homme du 92, vous êtes bien dans l'émission Championne, l'émission qui parle de sport féminin. Et aujourd'hui, nous parlons épée, duel sportif, et non pas duel judiciaire, ça c'est interdit de, par la loi. Et esquive, bien sûr, et à la fin de ma diatribe, je touche. Mm-hmm. Pour m'accompagner, j'ai toujours Elodie avec moi, est-ce que ça va Elodie ?
Ça va.
On a toujours la régie en place, merci Armand, toujours présent, yes ! Maintenant, nous allons parler de plusieurs choses. Notamment sur le traitement de la reconversion dans le sport, mais on voulait effectivement faire un dernier focus sur Laura Flessel, puisque effectivement, elle a eu des distinctions très intéressantes.
Elle a eu des distinctions, j'étais.
Voilà, je pense qu'il faut en parler.
J'étais impressionnée, parce que déjà, les distinctions, ça claque toujours.
Ouais, j'avoue. Déjà.
Mais ouais, elle a quand même eu. Alors, dès 96.
Ouais.
Dès 96, elle a été, du coup, comment on peut dire, élue.
Il y a un jury, ça, non ?
Donc, chevalière de la Légion d'honneur.
Ah non, ça, c'est le... C'est Jacques Chirac. C'est Jacques, là.
Ça l'a été adoubé, presque.
Ah bah, ouais, c'est bah, littéralement, oui. Ouais. À 25 ans, bravo.
Ouais. En 96 toujours, elle a eu le prix Emmanuel Rodocanici.
Désolé si
je le prononce mal. De l'Académie des Sports. Donc c'était un titre collectif cette fois avec l'équipe de France d'épée féminine comme meilleure équipe féminine de l'année.
Oh, c'est beau ça.
Alors, l'année des JO, l'année où tu remportes les premières médailles historiques.
Pouf.
Ouais, t'es contente.
C'est pas mal.
En 98, elle a le prix Guy Wildenstein. De cette même académie, comme athlète dont la carrière sportive constitue un exemple.
Oh bah, c'est... Que dire de plus ?
Là, tu touches plus le sol, je pense. Une fois qu'on te remet un truc comme ça, tu touches plus le sol.
Si un jour, il y a un prix qui dit vous avez une distinction...
Moi, je touche plus le sol, hein. J'atterris plus. Et enfin, en 2004, donc elle en a quand même eu pas mal, elle a été nommée commandeur de l'ordre national du mérite. C'est celui qui claque le plus en termes de nom.
Commandeur du mérite. Ouais.
Elle a été nommée en 2000 et du coup élue en 2004.
Donc on peut lui dire commandeur, comme ça, classique. Ouais. Elle peut dire à ses enfants, tu m'appelles commandeur. C'est fort, très fort. Bah, déjà, on sait qu'elle nous écoute et on l'embrasse.
Bah,
Laura Flessel, bien sûr. Parce qu'elle nous
Lolo,
toujours.
Tu nous entends.
Et pour terminer sur Laura Flessel, avant d'enchaîner sur effectivement la reconversion, pour moi c'est très important de souligner, Laura Flessel vous appartient. Elle a représenté la France. Il n'y a pas d'identité de genre, il n'y a pas de distinction. Elle représente le drapeau et il n'y a pas de distinction à faire entre des athlètes féminines et masculins, parce que vous pouvez voir que là, c'est elle qui a le record en plus. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces légendes du sport, parce qu'elles vous appartiennent, c'est le patrimoine. Voilà.
Tout à fait.
Madame la commandeur, je vous salue. Du coup, maintenant, on va parler de plusieurs choses, de façon libre, évidemment, sur la reconversion du sport. Alors, il faut savoir que la transition vers une nouvelle carrière après le sport, c'est un défi majeur pour de nombreux athlètes. Alors, quand ils sont extrêmement connus comme Michael Jordan et que tu deviens homme d'affaires, c'est facile.
C'est la transition un petit peu plus simple.
Mais quand tu es un anonyme qui joue pas forcément dans les plus gros tableaux, mais qui reste professionnel, que ce soit dans le foot ou dans n'importe quel sport, ça peut devenir un peu plus compliqué. Alors, il existe plein d'initiatives qui ont été mises en place. Et je vais vous donner des exemples notables de reconversion. Donc, on a parlé de Laura Flessel qui a eu plein de pistes. Ouais. Ministre.
Qui a touché un petit peu à tout, hein,
voilà,
finalement.
Elle, consultante, comédienne. On peut parler aussi.
Elle a été coach aussi.
Coach, effectivement. Vie associative et tout ça. On a par exemple notre Zinedine Zizou, coach de foot, donc on peut rester dans le football, hein, littéralement. On a aussi travaillé dans les instances telles qu'un Michel Platini. On t'adore Michel, mais quand même, à la FIFA. On a Lizarazu qui lui est le consultant sportif par excellence, mais on a aussi Tony Parker qui devient patron de club de basket de Villeurbanne notamment. Oui. On a Yannick Noah.
C'est vrai.
Musicien.
C'est l'une des reconversions les plus...
Folles.
Les plus folles et presque oubliées.
Oui, on a oublié que c'était un tennisman.
Pour la nouvelle génération, l'entre-deux générations, beaucoup de gens ont oublié qu'il était tennisman de haut niveau.
Voilà. Roland-Garros.
Roland-Garros, ouais.
Le seul.
Alors que, ouais, c'est incroyable comme reconversion.
C'est exceptionnel.
Reconversion.
Donc, le sport de haut niveau vous structure une vie entière, rigueur, effort, dépassement de soi, etc. Et beaucoup d'argent et beaucoup de sponsors pour les plus chanceux ou les plus talentueux. Et un peu moins pour les autres, mais ça reste quand même des sous, hein, clairement. Mais qui reste-t-il quand s'arrête la compétition ? La reconversion est souvent une épreuve silencieuse. Elle pose des questions identitaires profondes. Bah, qu'est-ce que je suis sans les podiums ? Qu'est-ce que je suis sans mes titres ? Comment trouver du sens ailleurs ? Pourquoi certaines reconversions réussissent et d'autres échouent ? Je pense à Guy Varche qui a fait la Coupe du Monde 98, c'était l'attaquant de l'équipe de France et qui après vendait des piscines.
Ouais.
Et parfois il y a ce côté un peu étrange du public que je trouve qui est hyper intéressant, c'est l'incompréhension de pourquoi ils sont partis dans cette direction. C'est-à-dire que eux, c'est des sportifs de haut niveau, ils ont décidé une reconversion, ça peut être tout et n'importe quoi, mais parfois le public a du mal à comprendre comment tu deviens d'un sportif professionnel à ne pas rester dans le sport.
Oui.
Tu ne deviens pas journaliste sportif, tu ne deviens pas commentateur sportif, tu ne deviens pas animateur, tu ne deviens pas coach, tu ne deviens pas directeur sportif. En fait, tu sors de ton sport pour faire carrément autre chose.
Pour retourner dans l'anonymat, comme on dit.
C'est ça. Et en fait, c'est clairement un bête de challenge parce que tu changes littéralement de vie. Hein. Ça, c'est clair.
Ah oui, complètement. Oui.
Et surtout, est-ce que c'est plus difficile pour les femmes qui affrontent en plus les stéréotypes de genre, les inégalités structurelles sur le monde du travail ? Bah oui. Et je vais vous donner l'anecdote réelle d'une joueuse qui jouait il y a 2 ans, je ne me souviens plus de son nom parce que je n'ai pas réussi à le retrouver, je m'en excuse, Issy Moulineau, Les Hiboux de Issy-les-Moulineaux qui sont le club de Ligue 1. Ligue 1, donc quand même, on est sur l'élite française de football féminin. Et en fait, il y a une joueuse qui parfois manquait des matchs parce qu'elle passait ses diplômes pour devenir avocate en même temps.
C'est dingue.
Qu'elle était professionnelle. C'est comme si je vous disais Mbappé, il ne va pas jouer un PSG Bayern parce que là, il est en train de passer sa licence d'ingénieur.
Ouais, ça n'arrive pas. Exactement pareil. Ouais.
Et donc, on a vraiment une grosse différence là-dessus. Il y a aussi le traitement que je trouve qui est hyper, hyper intéressant, et ça, je voulais en parler quelques minutes. On va prendre le football parce que c'est là où il y a le plus de sous en ce moment. Ça pourrait être le basket US, mais peu importe. Vous êtes un jeune garçon, vous avez une vingtaine d'années, vous gagnez bien votre vie, vous jouez au Real Madrid, par exemple. Vous achetez une énorme Ferrari, vous faites des excès de vitesse, vous sortez avec des mannequins, vous faites la vie, tout va bien, c'est génial. Vous dépensez votre argent à tue-tête, un peu n'importe comment, on voit dans les tabloïds, etc.
On a tous des noms en tête, je suis sûr.
Exactement. Et en plus, vous faites mannequin dans les podiums, j'en passe, et des meilleurs. Bref, vous sortez un peu de votre sport, vous faites un peu votre crise d'adolescence. Ok, avec des gros moyens quand même. Maintenant, si je vous dis que ce garçon, c'est une jeune fille, et que c'est une jeune fille qui a acheté la Ferrari, c'est une jeune fille qui a fait des excès de vitesse, c'est une jeune fille qui sort tous les mois avec un mannequin, un type de la télé, un acteur différent, est-ce qu'elle, elle ne va pas avoir une vision déjà différente?
Ouais. Ouais.
Ah bah, je te pose la question.
Ah bah, c'est sûr que oui. Hein.
Bah, vas-y, développe.
Bah, bien sûr que oui, il y a toujours... malheureusement, ce parallèle entre le féminin et le masculin. Voilà, un homme qui fait tout ça, excusez-moi du terme, c'est un petit con, il profite. Il est jeune, c'est une tête brûlée, il va s'assagir. Voilà, il crame la vie par les deux bouts.
C'est vrai.
Et quand c'est une femme qui fait pourtant exactement la même chose, voire moins... Bah là, tout de suite, les termes ne sont pas les mêmes.
Ah, ce ne seront pas les mêmes. D'ailleurs,
c'est des termes que je...
Péjoratifs, ouais.
Ouais, que je ne m'aventurerai pas à dire à l'antenne.
Non, c'est clairement péjoratif, on est dedans. Et d'ailleurs, je donne même un exemple. Je pense qu'une femme qui fait ça aujourd'hui dans le monde professionnel du sport, déjà, elle va avoir grave du mal à retrouver un club, si jamais ça se passe mal avec son club, parce qu'elle va avoir une image à traîner, alors que la tête brûlée, on va plutôt regarder ses qualités et savoir s'il apporte quelque chose dans l'équipe, et on va mettre de côté le personnel. Il y a juste certains coachs qui ne vont pas le prendre, mais il trouvera un club.
Oui. Parce qu'il quoi qu'il arrive.
Il aura un club. Et derrière, il y a aussi un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, une jeune femme sportive qui a ce genre de vie va être assimilée aux influenceuses les moins glam de tout le circuit.
Ouais.
Et en fait, elle va tout de suite avoir une étiquette, là où un gars ne l'aura pas. Et en fait, on a plein d'exemples en tête d'enfants terribles qui se sont assagis. D'ailleurs, si vous voulez savoir si c'est une anecdote vraie, la plupart des footballeurs professionnels, lorsqu'ils arrivent dans un grand club comme... Manchester United, Real Madrid, etc. Les coachs à l'ancienne faisaient en sorte de trouver un moyen pour que s'ils avaient une petite amie, etc., ils soient très bien parce que leur petite amie qui devenait leur femme, généralement, leur donnait une stabilité.
Oui.
Ils arrêtaient de sortir en boîte, cramer de l'argent, faire n'importe quoi parce qu'ils sont en couple et donc du coup, ils sont dans une construction, ils sont d'une certaine maturité. Et ils peuvent devenir pères. Et donc, voilà. Déjà ça, c'est un truc qu'on ne ferait pas avec une fille.
Non. Non, non. Ça ne permettrait pas.
Bah non. Parce qu'on se dirait, oh, faut 80 gars, ah, mais elle va être enceinte, elle peut pas jouer pour 9 mois.
Bah ouais.
Donc non.
Enfin, 9 mois, t'es gentil, hein.
Oui, c'est vrai.
Excuse-moi, hein, mais.
Oui.
Bon. J'avais eu d'enfant, mais 9 mois, t'es gentil, hein.
À 9 mois, tu peux dunker.
9 mois et 2 jours, bim. Use sur la pelouse, quoi.
Ah, reviennent en forme, les femmes, attends, quand même. Non. Donc effectivement, c'est assez fou qu'il y ait vraiment cette différence encore. Et je pense à vous qui écoutez, posez-vous la question effectivement, ce que vous pouvez en penser vous de ce genre de traitement. Et sur la reconversion classique, effectivement, on a les consultants, les coachs, les directeurs d'en sport, les animateurs, les agents de joueurs. Beckham est devenu agent de joueurs.
Oui.
Notamment après qu'il est à Los Angeles, quand il a déménagé, fait un énorme complexe qui porte son nom pour justement les centres de formation aux États-Unis. Et notamment pour les filles aussi.
Oui, il a fait aussi beaucoup. Ouais.
C'est un bon gars. Homme d'affaires, en lançant une marque de fringues ou une marque portant votre nom, Jordan, par exemple.
Par exemple.
Par exemple. Mais ça peut être Reebok, ça peut être Nike, ça peut être machin. Quand on dit une marque, il faut dire plein de marques, hein, c'est la loi. On peut devenir en politique comme David Douillet. On l'oublie souvent, mais grand champion de judo.
Oui, c'est vrai qu'on l'oublie. Ouais.
Et évidemment,
sa vie politique.
Tout à fait. Et après, faut savoir si vous avez déjà un diplôme ou pas. Et après, il y a ce qu'il y a aujourd'hui, qui est, je trouve, très intéressant. Il y a des agences d'anciens sportifs qui font aussi agents, mais en fait, qui vont clairement aider à la reconversion des sportifs. Ils vont chercher des sportifs entre 30 et 35 ans en fin de carrière qui sont ces fameux anonymes dont on a parlé, qui n'ont pas la vue des grands sponsors, etc. Et ils vont aller les trouver et ils vont tenter, sur les 3, 4, 5 dernières années de leur carrière, essayer de leur faire soit passer des diplômes, Soit monter une entreprise.
Investir de l'argent, enfin assurer ses arrières, quoi, clairement.
Exactement. Et après, il y a aussi ce préjugé que je trouve intéressant, c'est que on va avoir tendance à croire qu'une sportive professionnelle sera plus responsable avec ses sous qu'un gars. Qu'en pensez-vous ? Je pose la question. Peut-être que j'ai tort. Hein.
Je pense que... L'histoire nous a montré que souvent, c'était le cas. Souvent, les athlètes féminines, en règle générale, hein, c'est pas absolu, mais en général, préparent mieux leur départ à la retraite. C'est souvent des choix déjà mûrement réfléchis, ce qui n'est pas toujours le cas pour les athlètes masculins. Souvent, pas tous, hein, bien sûr, mais souvent, ils tirent jusqu'à blessure ou jusqu'à... Voilà,
le contrat de trop.
Exactement. Puis souvent, comme tu le disais avec la joueuse de foot, souvent ça prépare des diplômes à côté, ça prépare une vie de famille pour certaines. Enfin, je pense que globalement, souvent les femmes préparent mieux et préparent plus leur départ.
Eh ben, je rajouterais, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'elles s'adaptent mieux à leur fin de carrière parce qu'elles sont plus préparées et tout, mais ça joue aussi sur le fait qu'elles ont moins de moyens.
Oui.
C'est plus, c'est plus nécessaire de préparer ta fin de carrière quand tu sais que tu as moins de moyens que quand tu es un gars et tu gagnes beaucoup et tu oublies.
Ouais.
Parce que tu es dans le truc et en te disant je peux encore faire une saison, je vais encore signer là, je vais encore aller là. Ce qui est en fait, et dès le départ, encore une fois, une classification qu'il y a. Quand tu es un garçon et tu fais du sport, on te fait croire que tu vas faire du sport jusqu'à 60 piges. Alors que non.
C'est faux.
Même Cristiano.
Il va falloir qu'il s'arrête.
Ouais, il va falloir qu'il s'arrête, mon petit Cristiano.
Cri-cri.
Et j'ai effectivement des exemples réussis de grands noms et de noms moins importants. Mais par exemple, si on prend Tony Estanguet, président des JO de Paris, à la base, il a fait du canoë-kayak.
Ok, je ne savais pas.
Monsieur Estanguet. On a aussi évidemment Franck Leboeuf de l'équipe de France, qui lui est consultant TV. Jean Galfione à la perche, devenu navigateur.
Navigateur.
Ouais, reconverti dans la course au large. Et en plus, c'est un crack, apparemment.
Ah ouais ?
Ouais, c'est un truc de ouf. On a aussi des trucs surprenants. En Grande-Bretagne, en aviron, nous avons James Cracknell. Il est devenu chercheur en neurosciences à Cambridge.
Stylé.
C'est franchement respect.
Comme quoi, on peut être sportif et geek, nerd.
Eric Cantona.
Ouais.
Acteur, artiste, poète, et il fait des peintures pour de vrai, un vrai peintre. On a aussi Florent Manoudou, le frère de Laure, modèle photo, acteur dans des séries françaises, Danse avec les stars.
C'est ce que j'allais dire, Danse avec les stars.
Danse avec les stars, le DAO, on dit.
The place to be.
Voilà. On a aussi Grégory Bourillon, qui est un ancien joueur du PSG, qui est devenu. D'ailleurs, ça a fait le tour là, dans la presse, et je pense que c'est un sujet à part. C'est comment tu peux te faire critiquer par un public alors que tu te reconvertis comme tu as envie, en fait. Tu as le droit de faire ce que tu veux, tu es libre. Patron d'Intermarché.
Ok.
Il a un petit Intermarché, donc c'est le PDG de ton petit Intermarché. Et comme c'est un ancien du PSG. Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, les gens sont venus dire « Mais attendez, vous avez joué au PSG, comment vous atterrissez à chef de fruits et légumes, tu vois ?»
Ouais.
Et il n'y a pas de sous-métier, en fait.
Bah non.
Il fait ce qu'il veut.
Il fait « Va gérer une boutique, toi. »
Ouais, va te taper tous les employés, le frais, le tralala, bonne chance.
Les fournisseurs, les machins.
Ouais, c'est quand même une folie. Et t'as plein d'exemples comme ça, plus ou moins connus. T'as une ancienne championne du monde de kickboxing, Fatoumata Kone, qui est chef cuisinière et créatrice d'un concept de food solidaire en banlieue parisienne, dédicace à elle, parce que c'est vraiment cool.
Ouais, pour le trop coup. Bien.
C'est, évidemment, on a Marion Bartoli qui a lancé sa propre marque de sport et qui est aussi consultante. J'ai qui d'autre encore comme ça qui est assez fou. Alors, Vanessa Boslak, soit la perche, qui après une carrière dans le sport s'est tournée vers le théâtre en tant qu'actrice amateur et metteuse en scène.
Okay.
Et Grégory Coupé, ancien gardien de l'équipe de Lyon et de l'équipe de France, passionné d'art contemporain, il a ouvert une galerie éphémère à Lyon.
Ok.
Carrément.
C'est trop cool. Tu vois.
Donc, t'as vraiment plein d'exemples comme ça.
Il n'y a pas de limite, c'est vraiment.
C'est ça.
Fais ce que tu veux.
Et après, en plus, tu as un truc qui est assez cool, c'est que je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait plein de solutions maintenant. Alors, outre les agences qui peuvent te permettre de te reconvertir, qui sont d'anciens sportifs ou d'agents, tu as l'INSEP qui propose des formations adaptées aux athlètes de haut niveau pour te reconvertir. Tu as aussi l'Agence nationale du sport, l'ANS, qui propose le parcours de performance fédérale, qui inclut un volet sur l'employabilité pour faire une double carrière quand tu arrives en fin de carrière. Le ministère des sports a un volet là-dessus.
Okay.
C'est la reconversion des sportifs, je ne sais même pas, ça s'appelle un PPI, c'est projet de performance individuelle. Donc, tu as plein de structures privées ou associatives qui aident vraiment.
Oui, c'est un vrai sujet. Ouais. un vrai débat. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font même des dépressions après l'arrêt de leur carrière sportive, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce que c'est très compliqué.
Tu passes
de la lumière à l'ombre, tu passes de l'argent à beaucoup moins d'argent. Psychologiquement, ça doit être compliqué, ça se prépare.
Et ça n'existait pas avant.
Et même préparer, c'est pas évident.
Et tout ça, c'est très récent, ça n'existait pas avant, en fait. Il y a une association aussi, la fondation. Alice, quelque chose, je retrouve dans mes notes, qui existe depuis 2016 et qui est aussi une association pour la promotion du sport féminin. C'est très récent. Et du coup, on arrive évidemment à la fin, parce qu'on pourrait parler des heures de la reconversion, évidemment. Alors, effectivement, on arrive à la fin, il nous reste une minute. Waouh ! Ça c'est méga vite cette fois-ci.
C'est passé très très vite.
Voilà, alors, je voudrais finir en vous disant, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour liker @émission_championne. Ça c'est nous. Mais aussi la Fédération Française d'Escrime, qui a aussi son truc. Il y a aussi un coach spécialisé dans la reconversion des athlètes, ça s'appelle @athlète.reconversion. N'hésitez pas à regarder, c'est sympa sur Instagram. Ça va, l'émission s'est bien passée ?
C'était très bien, comme d'habitude. Cool.
Le mot de la fin, vas-y, je te le laisse.
Piège,
Yu-Gi-Oh!
Bah, écoutez, bonne soirée à tous.
C'est l'heure du duel, t'as vu, il y avait une ref ou pas ?
Profitez. Bisous à tous ceux que je connais, parce que j'en profite. N'hésitez pas à faire du sport, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce qu'il y a autour de chez vous. Il y a plein de choses à faire.
Effectivement, n'hésitez pas à aller faire du sport, profitez de la vie, il fait beau, en plus il y a plein de choses à faire. Allez courir, ça vous coûte pas grand chose, ne vous blessez pas, toujours prenez conseil, faites attention à votre corps, à votre hygiène de vie, ce que vous mangez, etc. Et oui, c'est moi qui vous dis ça alors que tout à l'heure je vais sans doute manger un fast food. En tout cas, je vous embrasse très fort, que la force soit avec vous. C'est une très bonne émission, tu t'es amusé ?
Oui.
Voilà, on remercie Elodie, on remercie Armand évidemment, qui va envoyer la fin, c'est le générique. Allez, je vous fais des bisous, à très bientôt. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started.
Écoutez Aligre FM 93.1.